franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène.
Bonjour Patrick.
Hommage national donc rendu ce matin par le président de la République aux victimes des attentats et hommage dans la presse.
Les 130 victimes citées une à une à la une de Libération, d'aujourd'hui en France Le Parisien ou de l'Alsace, interminable litanie. Les portraits de chacune d'elles qui s'égrènent depuis 15 jours et ce matin encore. Amin Ibn al-Mobarak, 29 ans, natif de Rabat, surnommé le Ryan Gosling marocain par ses copains. Il avait fait du carillon son QG, il y est mort, c'est-à-dire dans le monde. Passionné d'architecture, Amin venait d'exposer son travail de fin d'études à la Galerie du Crous de Paris. Il portait sur le pèlerinage de la Mecque. Un de ses professeurs parle d'un intellectuel musulman laïque, très représentatif de sa génération par son ouverture. Julien, 32 ans, saxophoniste passionné, tué au Bataclan en protégeant une amie qui a eu la vie sauve dans Libération. Noémie, 23 ans, mexicano-américaine, la plus douce des jeunes femmes, tuée à la terrasse du petit Cambodge dans le Figaro, fragment de vie fauchée. Hommage aux victimes invisibles, ces 52 orphelins, Micha, Diego, Iris, Melville, âgés de quelques mois à 15 ans, recensés par le Parisien. 52 enfants qui vont devoir vivre sans leur père, leur mère, les deux pour certains, assassinés le 13 novembre. Douleur des familles ce matin, celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Témoignage bouleversant dans la croix de Samuel Sandler, le père du rabbin Jonathan Sandler et le grand-père de Gabriel et Arié, victimes tous trois de Mohamed Merah à Toulouse en 2012. « Je ne m'autorise plus à rire ou à vivre », dit-il aujourd'hui. Plus le temps passe et plus leur absence est présente, c'est un manque inimaginable. « Ce que je veux, c'est qu'on n'oublie pas mon fils et mes petits-fils », plaide-t-il aujourd'hui, jugeant toujours invivable le fait d'entendre le nom de leur assassin. « Mais je n'ai pas de haine », arrive-t-il pourtant à conclure. Douleur des rescapés aussi, encore une fois, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. « Ces victimes oubliées », nous dit le Figaro. À chaque nouvelle attaque, les survivants des précédentes s'appellent entre eux, raconte Pauline, blessée le 3 décembre 1996 lors de l'attentat à la station Port-Royal à Paris. Ils s'appellent car les images ressurgissent. La même question lancinante revient. Pourquoi moi, je suis vivant? Beaucoup traînent depuis des années une certaine solitude, des souffrances, des rééducations au long cours. Un homme a su mettre des mots sur cette nouvelle vie qui s'ouvre. Philippe Lançon, journaliste à Libération, chroniqueur à Charlie Hebdo, est gravement blessé le 7 janvier dernier. Chaque semaine, dans sa chronique dans Charlie, intitulée « Dans le jacuzzi des ondes », Philippe Lançon raconte l'après. 22 avril, « Je me sens coupable de mes cicatrices », écrit-il, « car il arrive toujours un moment où je me sens seul avec elle. Seul, donc coupable face au poids que le solitaire représente pour sa famille, pour ses amis, solitaire face au monde qui ne l'attend pas. » Lançon est devenu une voix importante pour la petite communauté des blessés. Chaque mercredi, nous dit le Figaro, sa chronique est attendue, partagée, commentée.
Hommage donc de toute une nation ce matin, mais une cérémonie, pourquoi faire Hélène?
Pour dire à ses familles qu'aujourd'hui c'est tout un peuple qui s'incline avec elle sur ses 130 cercueils, écrit Jean-Marie Montali dans Le Parisien. Pour faire communion, renchérit Laurent Geoffrin. Pas facile pourtant pour certains de concilier deuil intime et cérémonie collective. Vous venez d'en parler, Michael Feussel. Marc, dans Libération, raconte qu'il préfère se retrouver en petit comité autour de la famille d'Amin, ce jeune architecte dont nous parlions. C'est une volonté de refermer le cercle, dit-il, d'arriver à définir un espace singulier pour ce deuil. Ce deuil suffisamment lourd à gérer, je préfère me concentrer sur ça. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est pour éviter une sorte d'usure mentale. Mais cette mobilisation républicaine, cette monumentalisation autour des noms de chaque victime, ne sont pas seulement des signes de deuil et d'hommage, nous explique l'historien André Guntert, toujours dans Libération. C'est aussi une action des vivants. Si la mort menace notre humanité, lui faire face avec des signes et des images, c'est restituer de l'humanité à l'endroit où celle-ci fait défaut.
La presse ce matin qui a assez largement suivi l'invitation de François Hollande à arborer le drapeau tricolore.
Presse nationale et régionale largement pavoisée, la Dépêche du Midi, Paris-Normandie, la Provence, la Voix du Nord, le Figaro entre autres. Pavoisée, c'est un engagement, professe Michel Urvois à la une de Ouest-France. Mais le regain d'amour pour notre drapeau ne fait pas forcément l'unanimité. Chez les Français d'abord, c'est bien, il faut revenir à l'essence du patriotisme comme aux États-Unis, dit Jean dans Le Parisien. Non, je crois que la solidarité et le vivre ensemble passent par plein d'autres choses plus importantes, tempère Fanny. Avis divergent également chez les éditorialistes. Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, espère voir dans ses drapeaux tricolores les prémices d'un réveil français quand l'humanité, sous la plume de Patrick Appelmüller, est plus circonspect. L'injonction, dit-il, rappelle des images des États-Unis et il n'y a qu'un pas du patriotisme au Patriot Act. s'inquiète-t-il. Mais finalement, il se laisse emballer par Dumas, Alexandre Dumas. Il ne faut pas laisser un drapeau aux mains de l'ennemi, disait l'écrivain, même quand ce drapeau ne serait qu'une serviette. Avis nuancé également de la part des historiens sur la signification ou la portée de ce retour au bleu-blanc-rouge. Pierre Nora dans le Figaro se réjouit de voir ces symboles nationaux revenir à la nation tout entière. Et nous sommes à ce moment particulier, explique-t-il, où la blessure collective que nous venons de subir remet la France à l'avant-scène de l'histoire. Pour autant, il ne se fait guère d'illusions sur la pérennité de ce saisissement collectif. Et puis dans Libération, le spécialiste de la Grande Guerre, Nicolas Offenstadt, voit lui dans cette vague bleu-blanc-rouge une façon d'aller au plus simple dans ce moment vital où on a besoin de trouver des communautés symboliques. C'est une saisie défensive, dit-il, des symboles de la patrie. Mais attention, dit-il, tout le monde ne met pas la même chose dans ces symboles patriotiques. Enfin, l'historien Éric Dereau est le plus sévère dans l'opinion sur ce qu'il appelle l'appareil de propagande patriotique opportunément ressorti par la gauche. Ça sent un peu la ficelle politique, dit-il.
Il y a une phrase, Michael Fossel, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux depuis hier. C'est une citation de Romain Gary qui dit, qui a été notée, rappelée par Alain Duhamel hier dans sa chronique de Libération, qui dit « Le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme, c'est la haine des autres. » Est-ce que ça vous semble assez bien correspondre à cette opposition ou à cette limite ou à cette frontière qui peut être franchie dans ces moments délicats?
Dans la mesure où ça remet en cause le nationalisme, oui. Parce qu'effectivement, le nationalisme, ça, c'est François Mitterrand qui l'avait dit, c'est généralement plutôt la guerre que la paix. Guerre. Mais le patriotisme se distingue aussi du nationalisme par le fait que, vous l'avez rappelé, il reçoit beaucoup d'expressions diverses. Si vous voulez, moi, encore une fois, j'ai été aussi sensible, par exemple, à ce que j'ai vu sur la terrasse de la Belle Équipe, c'est-à-dire que pour rendre hommage aux victimes, à ce que certains aient déposé des bouteilles de vin rouge entamées, qu'au chant de la Marseillaise ou qu'au drapeau. Évidemment, il y a une nécessité pour chacun de se retrouver dans des symboles, mais nous sommes en République, certes, mais aussi en démocratie. Et par conséquent, le choix de ces symboles, y compris lorsqu'ils sont considérés comme maladroits ou un petit peu incongrus, ce choix relève quand même des citoyens, autant, je dirais, que des autorités qui sont dans leur rôle lorsqu'elles essaient de désigner des symboles généraux, mais auxquels nous ne sommes pas tenus d'adhérer de la même façon.
Autre symbole étonnant, on l'a évoqué ici même, cette appropriation du livre d'Hemingway, Paris est une fête. Et là, vous l'avez vu peut-être aussi, la Belle Équipe, c'est ce bar de la rue de Charonne, que vous habitez pas très loin dans le quartier. On a vu aussi des exemplaires de Paris est une fête déposés par des passants, des anonymes sur les lieux des attentats.
Bien sûr, ce qui est tout à fait paradoxal dans ces attentats, c'est que ils sont à la fois, on l'a dit mille fois, des remises en cause ou des attaques de la France ou de la République, mais qu'ils s'en sont pris quand même à une figure de la vie démocratique qui est généralement considérée, pas du tout comme marginale, mais quand même comme un petit peu décalée par rapport à la vie institutionnelle, c'est-à-dire justement la fête. Même si la fête a mauvaise presse ces dernières années, parce qu'elle représente évidemment une remise en cause un petit peu de l'ordre, de la sécurité, ce que je trouve tout à fait révélateur, c'est qu'on est pu pour quelques jours, est-ce que cela va durer? Je n'en suis pas convaincu, parce que ces attentats n'ont pas non plus saisi la France n'importe quand, à une époque où elle était elle-même déjà très en forme. Mais en tous les cas, il a été possible pendant quelques jours de dire que une des actions patriotiques les plus respectables, c'était, d'ici de faire la fête, du moins d'être ensemble sur un mode qui ne soit pas un mode guerrier, ou un mode affirmatif d'identité nationale. C'est une petite parenthèse, on peut souhaiter qu'elle se renouvelle un peu, non pas au sens où évidemment il suffirait d'aller en terrasse pour résister au terrorisme, tout cela serait totalement absurde, mais à partir du moment où leur but est d'interdire ce type d'être ensemble, le meilleur moyen d'y répliquer, c'est de ne pas forger des lois qui le rendent encore plus difficile.
Dans Paris est une fête, c'est le Paris bistrotier des années 20, rappelons-le, qui est célébré par Ernest Hemingway. On termine, Hélène, encore avec du bleu-blanc-rouge.
Du linge qui pend aux fenêtres, pantalon bleu, pantalon blanc, t-shirt rouge, fenêtres des habitants de Béziers, Béziers pavoisé, à chacun son drapeau, s'amuse le dessinateur Hervé Baudry dans un dessin qu'il a fait rien que pour nous, pour la revue de presse de France Inter qu'il nous a adressé. On termine par une prescription, le numéro spécial de Society sur fond noir à la une, deux séries de SMS, les premiers le 13 novembre. Vous êtes chez vous? Réponse, on est à la maison, on vient d'apprendre, putain, les secondes datées d'aujourd'hui, et maintenant, il se passe quoi? Très beau numéro, franchement, au fil des 15 jours que nous venons de vivre, des témoignages des héros ordinaires de la terrible soirée, aux tentatives d'explications sur la fabrique des kamikazes. Et puis on termine vraiment cette fois, Patrick, parce qu'il n'a franchement rien à voir, la première interview de Mathieu Valbuena, empêtré dans son affaire de sextape, entretien avec Fabrice Lhomme, paru il y a quelques instants dans la matinale du Monde. Alors je vous en laisse découvrir le contenu, car moi franchement j'ai plus le temps, mais en un mot commençant, il charge grave Benzema.
Oui, il l'accuse de l'avoir indirectement incité à payer. Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter.